Eh bien donc, si les nourrissons de Cronos, en possession d'un si grand loisir et avec la faculté de communiquer par la parole, non seulement avec les hommes, mais aussi avec les animaux, profitèrent de tous ces avantages pour la philosophie, conversant entre eux ou avec les bêtes, et interrogeant tous les êtres pour savoir si quelqu'un d'entre eux, par quelque faculté particulière, n'aurait pas observé quelque chose de plus que les autres qui ajouta à la science, il est aisé de décider que ceux d'alors jouissaient d'une félicité mille fois plus grande que ceux d'aujourd'hui. Mais si c'était seulement après s'être rassasiés de nourriture et des boissons qu'ils s'entretenaient entre eux et avec les animaux, dans le langage de ces fables où il figure encore aujourd'hui, la question, à ce qu'il me semble, est encore très facile à décider. Cependant, laissons cela, jusqu'à ce qu'il s'offre à nous quelques révélateurs capables de nous apprendre de laquelle de ces deux manières les hommes d'alors montraient leur goût pour la science et pour la parole, et expliquons pour quelles raisons nous avons été réveillés cette fable, afin qu'ensuite nous puissions aller en avant. Quand cette première époque fut accomplie, et qu'il fallut que la révolution s'opéra, quand toute la race sortie de la terre se fut éteinte, quand chaque âme eut rempli le nombre de ses générations et livré à la terre autant de germes qui lui avaient été prescrits, alors celui qui régit cet univers comme un pilote qui abandonne le gouvernail se retira dans un lieu d'observation, et le monde fut encore une fois emporté en sens contraire, suivant les lois de la nécessité et son penchant inné. Les dieux qui gouvernaient les régions diverses de concert avec la divinité suprême, s'apercevant de ce qui venait d'arriver, abandonnèrent tous à leur tour les parties du monde confiées à leurs soins. Dans ce nouveau mouvement en arrière, le monde, poussé à la fois dans les deux directions contraires du mouvement qui commence et de celui qui finit, s'agita longtemps avec violence sur lui-même et causa ainsi une nouvelle destruction de toutes les races d'animaux. Puis, lorsque avec le temps son agitation et ses mouvements tumultueux se furent apaisés et qu'il revint à la tranquillité, il recommença sa course accoutumée et régulière et reprit l'empire et le gouvernement de tout ce qui était en lui et à lui, se rappelant de son mieux les enseignements de son auteur et de son père. Au commencement, il s'y conformait avec exactitude, mais sur la fin avec plus de négligence. La cause en était dans l'élément matériel de sa constitution, enfant de l'antique et primitive nature et qui était plein de confusion avant d'en venir à cet ordre que nous voyons. Car tout ce que le monde a de beau, il le tient de celui qui l'a formé. Mais tout ce qui arrive dans le ciel de mauvais et d'injuste, c'est de cet état antérieur qu'il le reçoit et le transmet aux êtres animés. Tant qu'il eut son guide avec lui pour le diriger dans le gouvernement des êtres animés qu'il renferme, il produisit peu de maux et de grands biens. Mais quand son guide l'abandonne, il continue bien d'abord à gouverner tout sagement, mais à mesure que le temps s'avance et que l'oubli survient, l'ancien désordre domine en lui davantage, et sur la fin il se développe à ce point que ne mêlant plus que très peu de bien à beaucoup de mal, le monde en vient à courir le risque d'une entière destruction de lui-même et de tout ce qui est en lui. Alors celui qui l'a formé, le voyant cette extrémité, et ne voulant point qu'assailli et dissous par le désordre, il s'abîme dans l'espace infini de la dissemblance, Dieu revient s'asseoir au gouvernail, répare ce qui s'est altéré ou détruit, en imprimant de nouveau le mouvement qui s'était accompli précédemment sous sa direction, réforme, ordonne le monde et l'affranchit de la mort et de la vieillesse. C'est ici que se termine tout ce qu'on raconte, mais ce que nous venons de dire, rattaché à ce qui a été dit tout à l'heure, suffira pour la définition du roi. En effet, lorsque le monde fut rentré dans la voie que suit aujourd'hui la génération, l'âge s'arrêta encore une fois et reprit une marche contraire à celle qu'il venait de suivre. Les êtres qui, à force de diminuer, s'étaient presque réduits à rien, se mirent à grandir. Ceux qui venaient de sortir de la terre, blanchirent de vieillesse, moururent de nouveau et retournèrent à la terre. Tout le reste changea de même à l'imitation et par une suite des changements de l'univers. Les lois de la conception, de la naissance et de la nourriture des êtres suivirent aussi nécessairement le sort général de toutes choses. Il n'était plus possible qu'aucun animal naquît de la terre par l'agglomération de substances étrangères, mais de même qu'il avait été prescrit au monde d'être lui-même le modérateur de son cours, par un ordre semblable, il fut ordonné à ses parties de se reproduire, de s'enfanter et de se nourrir à elles seules autant qu'il serait possible. Mais nous voici enfin au point par lequel nous nous sommes engagés dans tout ce discours. Car de discuter pour tous les autres animaux de quel état et par quelle cause chacun a passé un état nouveau, Cela demanderait beaucoup de temps et de paroles. Mais ce qui concerne les hommes est plus court et tient de plus près à notre sujet. Délaissés du Dieu qui était leur maître et leur pasteur, au milieu de tant d'animaux qui, de sauvages, étaient devenus féroces, les hommes, faibles et sans défense, étaient déchirés par eux. Et dans ces premiers temps, ils n'avaient ni industrie ni art. Leurs aliments étant venus à cesser tout à coup de naître d'eux-mêmes, sans que la nécessité les eût jamais contraints d'apprendre à se les procurer. Tout cela les mettait dans une grande détresse. C'est pourquoi ces présents dont parlent les anciennes traditions nous furent apportés par les dieux avec l'instruction et les enseignements nécessaires, le feu par Prométhée, les arts par Vulcain et la déesse compagne de ses travaux, les semences et les plantes par d'autres divinités. Et ce fut là ce qui fit inventer tout ce qui est à l'usage ordinaire de la vie, quand la protection divine, comme il vient d'être dit, vint manquer aux hommes, et qu'ils durent prendre eux-mêmes le soin de se conduire et de satisfaire leurs besoins, comme le fait l'univers, à l'exemple et à la suite duquel nous naissons et nous vivons tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Terminons donc ici notre récit, et faisons-le servir à nous convaincre combien nous nous sommes mépris dans ce que nous avons dit précédemment du roi et du politique. En quoi donc? Et quelle est cette grande erreur dont tu parles? Elle est légère en un sens, mais en un autre très grave, et beaucoup plus grande et plus considérable que celle de tout à l'heure. Comment? On nous demandait le roi et le politique dans le cours présent du monde et de la génération, et nous sommes allés chercher dans l'âge où tout marchait en sens contraire, le pasteur de la race humaine de ce temps-là, et un dieu au lieu d'un mortel. C'est nous être extrêmement égarés. Ensuite, en déclarant qu'il gouverne l'État tout entier, sans expliquer en quelle façon, nous avons énoncé une chose vraie, mais sans rien dire de complet ni de clair. Ici, donc, nous avons encore fait une faute, quoique plus légère que la première. Cela est vrai. Ainsi, à ce qu'il semble, ce n'est qu'après avoir défini ce que c'est que le gouvernement de l'État, que nous pourrons croire avoir exposé complètement ce que c'est que le politique. Rien de mieux. Si nous avons fait entrer ici cette fable, ce n'est pas seulement pour qu'elle servit à nous prouver que tout le monde dispute à celui que nous cherchons maintenant l'honneur de l'éducation des troupeaux, mais afin que nous distinguions plus clairement celui qui, suffisant tout seul à l'entretien de l'espèce humaine, comme les bergers et les bouviers à l'entretien de leurs troupeaux, et le seul aussi qui soit digne du titre en question. Fort bien. Mais je suis d'avis, Socrate, que cette image du divin pasteur est trop au-dessus d'un roi, et que les politiques d'aujourd'hui sont bien plus semblables par leur nature à ceux qu'ils gouvernent et s'en rapprochent davantage par l'instruction et l'éducation qu'ils ont reçue. Sans doute. Mais qu'ils soient faits de cette sorte ou de l'autre, il ne nous faut ni plus ni moins rechercher leur vraie définition. Évidemment. Reprenons donc encore ceci. L'art que nous avons nommé l'art de commander de soi-même aux animaux et qui s'occupe non pas de quelques individus isolés mais d'un grand nombre réunis. Nous l'avons aussi appelé l'art d'élever les troupeaux, tu t'en souviens? Oui? Eh bien, nous avons commis là quelque erreur, car nous n'avons ni saisi ni nommé le politique, et nous ne nous sommes pas aperçus qu'il nous échappait sous le nom que nous lui donnions. Comment? Nourrir son troupeau est un devoir commun à tous les autres pasteurs, mais qui ne regarde pas le politique, à qui nous avons ainsi imposé un nom qui ne s'applique pas à lui, tandis qu'il fallait en choisir un qui fût commun à tous les pasteurs. Tu as raison, s'il se trouva pareil. Par exemple, n'est-ce pas une chose commune à tous les pasteurs que le service de leurs troupeaux en général, sans spécifier ni la nourriture, ni aucune autre besogne en particulier? En disons donc l'art de garder les troupeaux, de les servir, d'en avoir soin, ou tout autre motif qui puisse s'appliquer à tous. Nous pouvions comprendre le politique avec les autres, puisque la discussion nous a montré que c'est cela qu'il faut faire. Très bien, mais ensuite, comment se serait faite la division? De la même manière que précédemment, quand nous avons successivement distingué dans l'art de nourrir les troupeaux, celui de nourrir les animaux terrestres, sans plumes, sans cornes, et qui ne se mêlent qu'entre eux. De même, en divisant l'art de garder les troupeaux en ces mêmes espèces, nous aurions également compris dans notre discours et la royauté d'aujourd'hui, et celle du temps de Chronos. Cela est clair, mais je cherche ce qui serait venu ensuite. Il est évident qu'une fois la royauté nommée l'art de garder les troupeaux, personne ne serait venu nous soutenir qu'elle n'est nullement un art de prendre soin de quelque chose, comme on soutenait tout à l'heure et avec raison, qu'il n'y a aucun art humain qui mérite le nom de nourricier, et que quand il y en aurait, ce ne serait pas à l'art du roi que conviendrait ce titre, mais à beaucoup d'autres auparavant et avec plus de justice. Bien. Bon, le soin à prendre de la société humaine, nul art humain ne peut le disputer à l'art royal, ni pour la puissance, ni pour la douceur. Tu as raison. Après cela, Socrate, ne voyons-nous pas à quel point nous nous sommes trompés à la fin même de nos divisions? En quoi? En ce que fussions-nous arrivés à reconnaître qu'il existe un art de nourrir les troupeaux d'animaux à deux pieds? Nous n'en devions pas plus pour cela le proclamer aussi l'art du roi et du politique, comme si la définition en était achevée. Et pourquoi pas? Il fallait d'abord, comme nous l'avons dit, corriger le nom et parler plutôt de soin que de nourriture. Ensuite, il fallait diviser ce soin lui-même, car il se pourrait qu'il fût encore susceptible de divisions assez importantes. Lesquelles? D'abord, la distinction que nous établissons entre le pasteur divin et le simple mortel qui pointerait le troupeau. Bien. Puis cet art de prendre soin que nous avons mis à part, il serait nécessaire de le diviser lui-même en deux parties. Et sous quel rapport? Sous celui de la violence ou de la libre volonté. Comment? Oui, c'est encore une nouvelle simplicité où nous sommes tombés précédemment, que de confondre ensemble le roi et le tyran, qui sont si différents et en eux-mêmes et dans leur manière de gouverner. Il est vrai. Maintenant donc, corrigeons-nous encore une fois. Et comme je viens de le dire, partageons l'art de prendre soin de la société humaine, suivant la distinction de la contrainte et de la volonté. Fort bien. Et donnons à l'art de gouverner par la force le nom de tyrannie, et le nom de politique à l'art de gouverner de gré à gré les animaux bipèdes, vivant en troupe. Proclamons celui qui exerce ce dernier art, le vrai roi, et le vrai politique. Il semble étranger que notre définition du politique se trouve ainsi achevée.